salutations à ceux que j'ai pas pu encore à qui j'ai pas encore dit bonjour. On est heureux d'être ensemble ce matin. Et si vous étiez là avec nous ces derniers dimanches, on a commencé à explorer un petit peu différentes réflexions en ce qui concerne le royaume. On avait vu dans Daniel 2 que Dieu avait assuré déjà bien avant la venue de Jésus que son royaume à lui était en préparation, qu'il allait surpasser tous les royaumes de la terre, qu'il allait durer éternellement, et qu'il n'y avait pas d'autre royaume solide dans lequel on pouvait espérer demeurer, construire sa vie. Et puis la dernière fois, on avait vu aussi le caractère précieux de son royaume. C'est comme trouver un trésor au milieu d'un champ, et on est prêt à tout abandonner pour avoir ce trésor-là, comme ce marchand de perles, qui a passé sa vie à trouver plein de perles et à les vendre, mais un jour, il a trouvé la perle plus précieuse que tout ce qu'il avait jamais vu, et c'était tellement précieux qu'il a renoncé à toutes les autres pour cette seule perle-là. Alors, aujourd'hui, et dans les trois prochaines fois où je serai amené à prêcher, j'aimerais vous parler du médiateur, de celui qui est le conducteur de ce royaume, celui qui est le chef de ce royaume. Et on a déjà parlé dans l'Église que Jésus est ce Messie-là. Le Messie, ça veut dire celui qui est choisi, et la manière dont on signifiait, dont on manifestait concrètement que cette personne était mise à part pour tel ou tel service, dans l'Ancien Testament, c'était que cette personne était, on versait de l'huile sur sa tête, elle était ointe d'huile. Et donc c'est ça, c'est de là que ça vient le mot Messie, c'est celui qui est oint. Et il y avait trois offices dans lesquels on avait cette pratique-là, celui qui était prophète, porte-parole de Dieu, on le oignait avec une huile. Celui qui était prêtre ou sacrificateur, on le oignait avec l'huile. Et celui qui était roi, on le oignait avec l'huile. Alors, le catéchisme de Heidelberg, en introduction, nous dit ceci. Pourquoi Jésus est-il appelé Christ, c'est-à-dire oint ? Parce qu'il a été ordonné de Dieu le Père et oint, donc on a comme versé de l'huile sur sa tête, oint, c'est pas de l'huile, mais oint du Saint-Esprit. Pour être notre souverain prophète et docteur, c'est lui qui nous a pleinement révélé le conseil secret et la volonté de Dieu pour notre rédemption. Deuxièmement, pour être notre unique souverain sacrificateur, c'est lui qui, par le seul sacrifice de son corps, nous a rachetés et qui intercède continuellement pour nous auprès du Père. Et troisièmement, pour être notre roi éternel, c'est lui qui règne sur nous par sa parole et par son esprit, et qui nous garde et maintient dans la rédemption qu'il nous a acquise. La question numéro 31 et la question 32 qui suit, elle dit ceci. Mais pourquoi, toi, es-tu appelé chrétien ? Alors, ça s'adresse à ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Et voici la réponse. Parce que je suis, par la foi, un membre du Christ. Je suis uni à Christ, je fais partie de Christ. Et je participe ainsi à son onction pour confesser son nom, dans son rôle de prophète, pour m'offrir à lui en un vivant sacrifice de reconnaissance, ça parle du sacerdoce, et pour combattre dans cette vie avec une conscience libre contre le péché et le diable, et régner enfin éternellement avec lui sur toutes les créatures. Ça parle du rôle de roi qui dirige le royaume. Alors, ce matin, on ne va pas faire ces trois offices-là de Christ, ce serait bien trop long, mais je vais me concentrer ce matin sur le rôle de prophète, de porte-parole de Jésus. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Et je pense qu'il y a ces trois offices-là de Christ qui sont mentionnés dans ce passage. Mais on va se concentrer ce matin donc sur Jésus comme prophète, chargé de donner au peuple les paroles qui viennent de Dieu. C'est le porte-voix, le porte-parole de Dieu. Et donc je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 3. Vous y êtes ? Hébreux chapitre 1, versets 1 jusqu'à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire
est l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On voit juste dans ces quelques versets ces trois offices, mais vous avez remarqué comment Dieu parle. Dieu parle par son Fils. Il a parlé de bien des manières, mais dans ces temps qui sont les derniers, les temps où nous nous trouvons, maintenant que Jésus s'est incarné, qu'il a vécu la vie, qu'il a vécu parfaite en tant qu'homme, et qu'il a accompli toute l'œuvre que Dieu lui avait confiée, de mourir sur la croix pour le salut des pécheurs, de ressusciter le troisième jour pour régner. Nous avons aujourd'hui, donc, par Jésus, une parole claire qui nous vient de Dieu. Je voudrais sauter quelques versets et lire encore un petit passage avec vous. Donc Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi, puisque Dieu a parlé, puisque la parole de Jésus est supérieure à tout ce qu'on a pu entendre de la part de Dieu, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. Et peut-être qu'une meilleure traduction du verset 4, plus proche, je pense, du sens, c'est bien sûr Dieu a donné des signes miraculeux, des actes extraordinaires, des manifestations diverses de sa puissance à tous les porte-paroles qu'il avait suscités dans le temps pour qu'on puisse savoir qu'ils venaient de Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui se levaient d'eux-mêmes, de leur propre intelligence, qui voulaient dire des choses, mais qu'ils étaient bien en train de parler de la part de Dieu. Mais la fin du verset dit ceci, je lis dans la version du Semeur, « Et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit-Saint. » Alors, je voudrais voir ce matin avec vous comment Dieu parle par son Fils dans ces temps qui sont les derniers, et comment par l'Esprit-Saint, nous recevons cette parole. Nous la recevons dans notre propre cœur. C'est bien légitime, n'est-ce pas, que celui qui a tout créé et à qui tout appartient ait quelque chose à dire. Et si c'est bien lui qui est le chef suprême de tout l'univers, c'est bien normal aussi que nous, on soit en train de l'écouter. Si on a estimé le rôle des prophètes humains, à combien plus forte raison devons-nous estimer le rôle de prophète de Jésus ? Parce que, on l'a lu ensemble dans le chapitre 1, il est l'expression de la réalité même de Dieu. Alors si tu veux voir qui est Dieu, si tu veux connaître Dieu personnellement, eh bien tu peux regarder à Christ, tu peux écouter Christ, et quand tu vois Christ et quand tu entends Christ, c'est comme si tu entends Dieu te parler. C'est Dieu lui-même qui se fait connaître, sans déformation, sans perte. Jésus, c'est l'expression même de Dieu. Il représente fidèlement et en tout point, dans sa totalité, dans son infinie grandeur, dans son infinie sagesse, dans son infini amour, tout ce que Dieu est. Et non seulement Dieu a tout créé par sa parole puissante, au travers de son Fils, mais il soutient tout aussi par sa parole puissante. Et donc ce Père, ce Dieu créateur, n'a pas simplement lancé les choses et après il s'est désintéressé du reste de la vie, de sa création, mais encore aujourd'hui, c'est lui qui, par sa parole, soutient tout ce qu'il a créé. Alors on peut penser aux oiseaux, on peut penser aux fourmis, mais en réalité, on est les premiers concernés. Nous qui sommes aussi à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, créés pour être en relation particulière avec Dieu, c'est aussi lui qui veut soutenir notre vie par sa parole puissante. Je voudrais vous amener à réfléchir. Dieu a parlé. Et peut-être que si tu es dans l'église ou si tu as grandi dans un contexte chrétien, ça semble un peu banal. Ben oui, Dieu, je sais qu'il est une personne, et une personne, elle parle. Mais en réalité, on devrait essayer des fois de se remettre dans une position où on ne sait rien. Et on devrait être surpris. Dieu a parlé. Tu veux dire, le Dieu qui a fait tout l'univers, le Dieu invisible, dont je vois simplement quelques échos, quelques éclats de la grâce dans la création, ce Dieu-là qui semble si loin, il a parlé. Il a parlé de telle sorte qu'on peut le comprendre, qu'on peut le connaître. Ça devrait nous émerveiller. Ça devrait nous mettre dans la joie. Ça veut dire qu'on n'est pas seul ici. Que quelqu'un se soucie de nous, que quelqu'un veut être en relation avec nous. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu qui a tout fait. Dieu a parlé. C'est donc qu'il veut se faire connaître. On peut connaître Dieu. Il y a des nouveau-nés qui sont arrivés dernièrement dans l'église. On se réjouit pour ça. Samuel, il y en a ici un autre. Charlie, je pense qu'il peut être quelqu'un qui donne de l'avant, en tout cas derrière. Pour le moment, ils ne parlent pas, ces nouveau-nés. Mais on attend qu'une chose, c'est qu'ils puissent dire leur premier mot. Et si vous avez été parents, et si vous êtes déjà passé par ça, vous vous rappelez l'émoi que ça crée quand enfin il y a une parole intelligible qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas communiqué avant, mais cette parole qui devient intelligible, qui devient de plus en plus construite, quand les phrases commencent à se faire, quand on commence à avoir une discussion, un dialogue, une relation plus personnelle avec son enfant, c'est merveilleux, c'est magnifique. De la même manière, Dieu vous parle. Et c'est ce même émerveillement qu'on devrait avoir devant Dieu. Non pas parce qu'il est un enfant et que lui, il est en train de se développer, mais parce que nous pouvons être en relation avec lui. Dieu a parlé par les prophètes, mais en ces temps qui sont les derniers, il s'est révélé de façon encore plus nette, plus claire par son Fils. Si on veut le connaître lui, il faut écouter son Fils. Dieu a parlé pour qu'on le connaisse et aussi pour qu'on se connaisse nous-mêmes. Et voyez, il y a une bonne chose encore, un acte de bonté dans la parole de Dieu. Quand il nous parle, c'est aussi pour que nous, on sache qui on est. Parce qu'on n'est pas né de nulle part. On est né de lui. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui sait comment nous fonctionnons. Et nous-mêmes, on n'est pas capable de se connaître nous-mêmes. C'est une illusion de penser qu'on peut se connaître soi-même, indépendamment de Dieu. Depuis l'arrivée du péché même, dans le jardin d'Éden, et à la suite, dans notre vie, à tous, on est incapable de se connaître véritablement. Et ce que nous, on estime être valable pour nous, en fait, parfois on se trompe, on prend des mauvaises choses comme ayant de la valeur. On est incapable de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Dieu a parlé, ce qui fait qu'on peut se connaître, nous, en tant que créatures. On peut voir combien nous sommes dépendants de ce Dieu-là qui nous a fait. Et combien cette dépendance, elle est bonne. Parce que la relation que Dieu veut établir avec sa créature, c'est une relation d'amour. Une relation dans laquelle il prend soin. Une relation dans laquelle il avertit pour pas qu'on aille dans des zones dangereuses, mais plutôt pour qu'on soit en sécurité, tranquille, auprès de lui. Dieu a parlé. On devrait être époustouflé par ça. Le Dieu infiniment grand, puissant, sage, qui existe de toute éternité, nous a adressé la parole. Il y a des gens, cet été, qui ont attendu sur les Champs-Élysées, vous rappelez, après la victoire des Bleus. Ils étaient impatients de peut-être pouvoir apercevoir la tête de M. Giroud, ou de M. Varane, ou d'un des joueurs. Peut-être certains, même, ils étaient à la porte de l'Élysée, ou ceux qui ont eu la chance d'être dans les jardins de l'Élysée, ils ont eu même un autographe, ils ont eu la possibilité de parler quelques secondes avec une de leurs stars, une personne qu'ils admirent. Est-ce que vous ne trouvez pas c'est extraordinaire que nous avons Dieu qui veut être proche de nous, qui veut se faire connaître. C'est plus qu'un autographe, c'est plus que quelques secondes. Il veut que nous bâtissions notre vie sur sa parole, dans la relation que nous pouvons avoir avec lui. Dieu a parlé, c'est magnifique. Deuxième chose, Dieu a parlé ultimement par son Fils. Et tout l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous démontre l'autorité de la parole de ce Fils. En Jésus, on a plus que les prophètes de l'Ancien Testament. Non pas parce qu'il dit autre chose ou parce qu'il dit, mais parce qu'il est l'aboutissement en fait de toutes ces promesses des prophètes. Alors quand quelqu'un vous fait une promesse, vous rapporte une promesse de la part d'un autre, c'est déjà bien, ça peut soutenir votre espérance. Mais quand c'est celui-là même qui fait la promesse, qui vient, qui redit sa promesse et puis qui dit, voilà, comme je t'avais promis, voici ce que je te donne. Alors c'est encore plus beau, n'est-ce pas? Et Jésus donc est supérieur aux prophètes dans ce sens-là, parce qu'il est l'aboutissement. Il est le message le plus clair, le plus complet, le plus parfaitement exprimé de Dieu. L'auteur de l'Épître nous dit aussi que en Jésus, nous avons plus que les anges. Des anges ont parfois été envoyés par Dieu pour apporter pour porter des messages aux êtres humains. Et tout ce qu'ils ont dit, parce qu'ils étaient envoyés par Dieu, c'est réalisé. Mais en Jésus, nous avons quelqu'un qui est supérieur aux anges. Nous avons celui qui a envoyé ces gens-là. Celui qui a le commandement sur toute l'armée du ciel. Donc son autorité est encore plus importante. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons même quelqu'un de plus grand que Moïse. Regardez avec moi. Chapitre 3, verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Moïse qui était le porte-parole de Dieu pour donner la loi au peuple de Dieu. Moïse qui pouvait, lui, entrer dans le tabernacle quand la nuée remplissait le tabernacle et qui pouvait intercéder en faveur du peuple. Et Dieu lui parlait en direct dans le tabernacle, et quand il ressortait, il y avait cette gloire qui se manifestait sur son visage, au point que quand il avait fini de dire les paroles de Dieu, il remettait un voile devant son visage. Ça effrayait tellement le peuple qui était au pied de la montagne. Alors si Moïse a été chargé d'un service aussi glorieux que cela, il a été chargé en tant que serviteur dans la maison. Non pas en tant qu'architecte de la maison, mais comme un travailleur dans la maison qui est envoyé par Dieu. Mais Jésus, lui, c'est l'architecte, c'est le concepteur, c'est celui qui a imaginé et pensé toutes choses bonnes. Et quand il parle, ses paroles ont plus d'autorité encore que Moïse. Dieu a parlé ultimement par son Fils, plus que les anges, plus que les prophètes, plus que Moïse. Pour nous, c'est la certitude alors que quand nous écoutons Jésus, nous avons des paroles vraies, solides sur lesquelles nous pouvons construire notre vie. Et c'est aussi quelque chose d'extraordinaire que le Fils n'a pas simplement venu avec des paroles, mais il est venu pour que ces paroles demeurent en nous. Quand les prophètes ont parlé, c'était toujours extérieur. On pouvait revenir à la Bible, on pouvait réécouter ou relire ce qu'ils avaient dit. Mais le grand malheur, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance, c'est que ces paroles restaient toujours extérieures. Jusqu'à ce que Dieu fasse cette promesse. Je vais faire une nouvelle alliance, je vais envoyer un nouveau médiateur. Et ce médiateur-là, il va faire en sorte que mes paroles, elles demeurent dans votre cœur. Que ces paroles que je vous dis, elles soient plus extérieures à vous, mais inscrites à l'intérieur de vous. Je voudrais citer un commentaire que j'ai lu de Andrew Murray et qui dit ceci. Dieu a parlé. Quel pouvoir admirable les paroles d'hommes n'ont-elles pas eu parfois ? On peut être encouragé, n'est-ce pas, par des paroles humaines, on peut être soutenu dans notre foi par les paroles des prophètes. Mais des paroles de Dieu, ce sont des actes créateurs. Ce qu'elles disent, elles le donnent, comme au moment de la création. Il dit et la chose arrive. En parlant par son Fils, Dieu nous le donne. Et non seulement pour qu'il soit avec nous, mais pour qu'il soit en nous. Il fait en quelque sorte jaillir le Fils, parole vivante, des profondeurs de son cœur, pour qu'il pénètre dans les profondeurs de notre cœur. Les paroles humaines font appel à l'intelligence ou à la volonté, aux sentiments ou aux passions. Dieu s'adresse à ce qu'il y a en nous de plus profond, au cœur, d'où viennent les sources de la vie. La volonté de Dieu, c'est que non seulement nous entendions par nos oreilles ce que Jésus dit, ce qu'il a fait, mais que ça produise en nous la présence même de Jésus, que ces paroles-là, elles pénètrent tout au fond de notre cœur et qu'elles soient une source de transformation pour nous. Ce même auteur que j'ai cité dit encore ceci: on peut rester faible tout en ayant une connaissance assez vaste de la Bible. Ce qu'il nous faut, c'est que Dieu lui-même nous parle intérieurement, avec puissance, par sa parole vivante, et que nous connaissions intimement celui qui est la parole vivante, Jésus, le Fils de Dieu. Quand je parle, c'est avec le désir de faire pénétrer ce que je dis dans le cœur de celui à qui je m'adresse, de façon qu'il en saisisse bien le sens et la valeur. Dans ces derniers temps, Dieu n'a plus qu'une parole. Il désire qu'elle pénètre en nous tout entière, avec toute sa valeur, et y vive. Ouvrons nos cœurs, et Dieu y fera retentir cette parole unique. C'est ici, mon Fils. Écoutez-le. Et ce Fils deviendra tout notre trésor. Ce que Jésus a accompli, c'est que la parole de Dieu, elle n'est plus extérieure à nous, mais Dieu la plante maintenant dans notre cœur. Et c'est pourquoi, au chapitre 3, au verset 7, nous lisons: c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit: ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Quand Dieu parle, quand il a parlé par le Fils, c'est encore valable pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si on entend sa voix, ça veut dire que c'est possible d'entendre Christ encore nous parler. Nous parler, bien sûr, parce qu'on lit la Bible et parce qu'on connaît ses paroles, on peut lire les citations que les apôtres et les évangélistes ont mis par écrit pour nous, inspirés par Dieu. Mais plus que cela, cette parole peut avoir un impact dans notre cœur. Elle doit avoir un impact dans notre cœur. Dieu nous a parlé par son Fils pour que nous mettions notre foi dans ses paroles, notre confiance, pour que nous vivions et que nous agissions en rapport avec ce que nous apprenons de lui et de ce que nous connaissons de lui. Aujourd'hui, on peut entendre la voix de Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de la même manière qu'il exhortait les chrétiens qui recevaient cette lettre-là, qui étaient tentés justement de chercher en dehors de Jésus, en dehors de cette relation intime avec Dieu, par Jésus, par sa parole, un soulagement pour leur vie, qui étaient tentés de croire à d'autres messages, il s'adresse aussi à nous pour nous dire qu'il nous faut faire attention aussi, de ne pas être tentés de la même manière. Et plutôt, il essaie de nous encourager, n'est-ce pas, comme il a encouragé les chrétiens qui nous ont précédés, à désirer cette parole, à désirer être dans cette relation avec Dieu. À obéir à cette parole, aujourd'hui même. Il dit ceci au chapitre 4, verset 1. Retoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. L'appel ici de l'auteur aux Hébreux, pour nous, c'est de mettre notre confiance dans cette bonne nouvelle. Dieu parle pour dire des bonnes choses, pour nous encourager, pour nous conduire dans des bons pâturages, pour nous faire du bien. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais pour certains, la parole qu'ils ont entendue, aussi bonne qu'elle était, ne leur a servi à rien parce qu'ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas misé leur vie, si vous voulez. Ils n'ont pas appliqué cette parole dans leur vie, dans la foi. Ils pouvaient écouter d'une certaine manière, mais ça n'avait pas d'impact pour eux. Et donc, l'auteur veut encourager les premiers destinataires, et jusqu'à nous aujourd'hui, quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Obéir à Dieu, écouter sa parole, entrer en relation avec Dieu par le prophète par excellence qu'il a suscité, Jésus-Christ, c'est entrer dans le repos. Et de la même manière que le peuple d'Israël, conduit par Moïse, à l'époque de l'Ancien Testament, donc a marché dans le désert et n'a manqué de rien, n'a pas manqué de nourriture, Dieu a pourvu à une manne céleste jour après jour. Et Jésus, on l'a vu dans l'évangile de Jean, est une nourriture meilleure que cette manne. De la même manière que, conduit par Moïse, ceux qui écoutaient les paroles de Dieu par l'intermédiaire de Moïse n'ont pas manqué d'eau au final, même en plein milieu du désert. Et rappelez-vous ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean, Jésus promet aussi des sources d'eau vive dans nos cœurs si nous mettons notre foi en lui, de telle sorte qu'on n'a plus jamais soif. Si dans l'époque de Moïse, Dieu, par son intermédiaire, a conduit le peuple dans des chemins, un chemin long, un chemin pénible, mais même les sandales qu'ils avaient aux pieds ne se sont pas usées, nous dit la parole. Dans le sens qu'ils ont manqué de rien, qu'ils ont marché sans se lasser, en vue du repos final dans la terre promise. Si Dieu a fait ça très concrètement pour le peuple d'Israël, c'est aussi ce qu'il veut faire aujourd'hui, par le médiateur qu'il a suscité pour nous, Jésus, le prophète par excellence. Ils ont été rendus capables de traverser, de parcourir tout ce chemin sans s'inquiéter. Et Dieu les protégeait de leurs ennemis. Et Dieu leur parlait et les réconfortait. De la même manière, Dieu veut nous rendre capables de traverser et parcourir tout le chemin d'une vie sur cette terre sans nous inquiéter. Dieu nous parle, Dieu nous protège de nos ennemis. Est-ce que on a conscience du privilège d'avoir un tel médiateur, porte-parole, supérieur aux anges, supérieur aux prophètes, supérieur à Moïse, qui nous conduit? Est-ce qu'on désire cette relation-là avec lui? Est-ce que c'est notre prière que Dieu nous donne de pouvoir entendre cette parole au fond du cœur? Pas juste résonner à nos oreilles, mais d'un point où elle produit la vie en nous. Que la vie de Christ et ces paroles-là que Christ prononce, elles deviennent une réalité en nous, dans notre vie. C'est ce que l'auteur de cette épître nous encourage à faire, n'est-ce pas? À mettre toute notre confiance en Jésus. Dans le monde du travail, il y a tout un tas de discours peut-être sur comment on devrait être en relation les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on devrait agir? Mais Dieu nous a parlé. Et il nous révèle comment est-ce qu'on, dans le contexte du travail par exemple, on est amené à manifester la vie de Jésus. Dans les relations au sein de la famille, nous avons aussi en Jésus des paroles qui nous donnent de la sagesse, qui nous donnent aussi la confiance et l'assurance pour faire des choix, pour dire des choses qui sont bonnes autour de nous. Et nous voulons écouter Jésus nous parler aussi dans ce domaine-là et mettre en pratique ce qu'il nous dit. Écouter Jésus, c'est plus que connaître la Bible et les grands principes de la Bible, mais c'est désirer expérimenter la relation avec lui et le voir agir dans nos cœurs. Dieu a parlé, ultimement par son Fils. Aujourd'hui, on peut entendre sa voix. Notre réponse, ça devrait être de désirer entendre cette parole, de désirer vivre selon cette parole. C'est possible, Jésus a tout fait pour ça. Notre réponse aussi, parce que nous sommes unis maintenant avec Christ dans la foi, si nous sommes chrétiens, c'est être aussi nous-mêmes des porte-paroles, des prophètes envoyés par Dieu dans ce monde. Il y a une bonne nouvelle. Si nous l'avons reçue, si nous l'avons acceptée, nous sommes aussi chargés de faire connaître cette bonne nouvelle autour de nous. L'apôtre Paul, aux Corinthiens, dans la deuxième lettre au chapitre 5, il dit ceci. « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Le fait d'être entré dans un royaume où le médiateur, le chef de ce royaume est un prophète, un porte-parole de Dieu, par excellence, fait que nous sommes aussi unis à lui. Nous devenons des porte-paroles de Dieu. Et ces porte-paroles, nous sommes d'abord appelés à les faire vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore entendu le message de la bonne nouvelle, de l'évangile. Voyez, c'est Dieu qui s'adresse par nous. Il veut nous utiliser pour être ses ambassadeurs, pour que les uns les autres qui n'ont pas encore entendu cela entendent le message qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu par Jésus. Mais c'est aussi dans l'Église que nous sommes appelés à nous dire cette parole. C'est encore l'apôtre Paul, cette fois-ci aux Colossiens, qui dit cela au chapitre 3. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Dans Éphésiens chapitre 4, on est appelé à se dire la vérité dans l'amour les uns aux autres, pour construire la foi de l'autre, pour nous encourager les uns les autres justement à ne pas nous détourner de Dieu, à ne pas manquer de confiance en Dieu, mais plutôt à rester ferme dans notre assurance et dans notre confiance en lui. Notre rôle de prophète est très concret aussi. Nous sommes appelés à échanger entre nous cette parole, à réfléchir ensemble autour de cette parole. Il ne s'agit pas d'imaginer des nouvelles révélations pour un tel ou une telle. Donc si quelqu'un vient avec vous en disant, ben voilà, dans mon rôle de prophète, Dieu m'a dit que tu devrais te marier avec un tel. Je ne crois pas que c'est vraiment le but de la parole de Dieu. Et si vous avez ce genre de pensée, il vaut peut-être mieux bien y réfléchir à deux fois avant de partager ce genre de ça. Ou peut-être dire, Dieu m'a révélé ce qui t'attend demain ou ce qui t'attend la semaine prochaine. Ce n'est pas ce genre de prophétie-là que Dieu nous demande d'avoir. Mais en cherchant ensemble comment appliquer cette parole, comment est-ce qu'on va rendre vivant la parole de Christ que nous lisons dans la Bible, dans des situations particulières. Peut-être parce qu'on a un choix à faire justement en ce qui concerne un travail, peut-être parce qu'on a un choix à faire en ce qui concerne un époux ou une épouse, on doit réfléchir ensemble, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et comment est-ce que tu peux savoir avec certitude dans quels sont les critères, quels sont les principes selon lesquels Dieu veut que tu fasses ce choix-là? Et non seulement les principes et les critères, mais aussi que Dieu te donne la force et le courage de vivre et de mettre ta confiance dans ces critères-là. On est appelé à se donner des bons conseils, inspirés de notre compréhension de la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est possible parce que Dieu a parlé. Et Dieu a parlé ultimement par son Fils. Moïse l'avait dit dans Deutéronome 18. C'est Dieu lui-même qui dit cela à Moïse pour qu'il le transmette au peuple. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. Cet épisode où ils sont devant la montagne en feu, la montagne qui tremble, et Dieu qui vient à la rencontre du peuple, et le peuple dit, on ne veut pas entendre Dieu, on a peur de se tenir dans la présence directement de ce Dieu saint. Verset 17, l'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc Dieu a pourvu un intermédiaire qui ne nous effraie pas, qui nous permet d'entendre les paroles de Dieu sans crainte. Et je voudrais terminer avec ça. Le Messie prophète que Dieu nous envoie est venu avec un message de réconciliation. Le message du salut pour des humains rebelles et pécheurs comme nous. La grâce de Dieu est manifestée dans le fait qu'il nous a parlé par un fils, par son fils. Ce fils, il ne nous cache rien du véritable problème que nous avons et du danger dans lequel on se trouve lorsqu'on est loin de Dieu. Si on persévère dans une vie sans tenir compte du Créateur et de sa parole, on est en danger. Car lui peut nous dire ce qui est vraiment mauvais et ce qui est vraiment bon. On a tendance, après Adam et Ève, à redéfinir pour nous-mêmes ce qui est bien ou mal, et on a besoin d'en réentendre clairement la parole de Dieu qui nous dit de quelle façon on peut l'honorer en cherchant ce qui est bien selon lui. Si Dieu n'avait pas parlé, on serait foutus. Parce qu'on serait perdu encore, loin de lui. On serait perdu parce qu'on serait sous le coup de notre condamnation, du fait de ne pas avoir tenu compte de sa parole. Mais Dieu n'a pas renoncé à nous parler, et dans les temps qui sont les derniers, il a envoyé son Fils. Et ce roi qui arrive, envoyé par Dieu, annonce qu'il est prêt à pardonner et admettre dans son royaume tous ceux qui se détournent de leur voie mauvaise, qui mettent leur confiance dans l'œuvre de Jésus et dans ses paroles. Alors, c'est cette bonne nouvelle qui tient notre cœur en paix devant Dieu. Le message de Jésus, c'est qu'il est possible d'être réconcilié avec notre Père Céleste, d'entrer dans la relation avec lui et par le Saint-Esprit, de voir sa parole transformer nos vies, nous amener à la vie pleine et entière, le vrai repos, la vraie satisfaction, le vrai épanouissement que nous cherchons, c'est quand nous écoutons Jésus et sa parole. Je vous invite à prier. Amen. Merci notre Dieu que tu as suscité un médiateur entre toi et nous. En effet, à cause de notre péché, nous tremblions de pouvoir nous tenir dans la présence d'un Dieu saint. Mais maintenant, en Jésus, tu nous as révélé que tu nous aimais et que tu voulais effacer nos dettes, nos fautes, et que nous pouvions entrer dans une relation nouvelle avec toi. Te remercions que tu as donné Jésus, ton Fils, que tu as parlé par lui, qu'il est l'expression de ta réalité même, que nous n'avons pas à douter que nous sommes bien en relation avec toi, au travers de lui, par lui. Et nous prions, Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur à nous, mais que cette parole que tu nous adresses par Jésus s'implante dans notre cœur, qu'elle produise les effets que tu as souhaité qu'elle fasse, Seigneur, quand tu l'as prononcée, qu'elle produise la vie, Seigneur, là où la mort était passée à cause de notre péché. Que des fleuves d'eau vive coulent à nouveau, Seigneur. Que notre cœur soit rassasié de cette parole que tu nous adresses par ton Fils. Apprends-nous, Seigneur, à être émerveillés par le fait que tu nous as parlé. Apprends-nous à t'écouter et apprends-nous à te faire confiance. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen.